Bonjour tout le monde. On enregistre un premier podcast, hein. il en faut bien un, c'est le premier. On enregistre à Transfert, à Paris, et je reçois avec grand plaisir mon ami, une sommité mondiale, j'ai de la chance, j'ai des super amis, JB Morin, donc, qui me fait le plaisir de démarrer ces podcasts, d'abord parce que c'est son idée, effectivement. On n'a pas de podcast sur les sciences du sport et la prépa physique en langue française, ou très peu. Donc il était temps de produire des choses là-dessus. Et ensuite, parce qu'il a des thématiques qui intéressent énormément les gens qui s'intéressent aux sciences du sport, hein, les préparateurs physiques, les kinés, les profs de PS, et évidemment les entraîneurs. Donc ce soir, on va parler de sprint, on va parler de vitesse, on va parler d'entraînement, d'évaluation et d'entraînement en course, puisque c'est un de tes sujets du moment.
Ouais. Merci de m'inviter, Aurélien, c'est un plaisir. Alors le truc qui manque, ce n'est pas des podcasts avec moi comme invité. Hein. Le truc qui manque, c'est des éléments de diffusion de la culture scientifique et sportive de type podcast, audio ou vidéo. Et donc, il y a quelques mois, on s'est plaint du fait qu'il n'y en avait pas. Et puis il y a quelques minutes, on vient de se dire, on arrête de dire, on fait. Donc on fait. Merci de l'invitation.
Bon, bah super. Donc forcément, on va parler de thématiques extrêmement appliquées parce que JB est un chercheur qui s'entraîne, un chercheur qui est très très proche des entraîneurs et qui donc partage leurs problématiques presque quotidiennement. Hein. Tu travailles avec énormément de clubs de foot, de clubs de sport co-pro, ouais. Et du coup, cette problématique de la course, tu ne l'as pas tout seul dans ton labo à Nice.
Non. Bon, à la base, oui, je suis un sportif qui se passionne pour son sport et qui se pose des questions. Et puis, pour répondre à des questions, il y a la science. Et donc, je pars en recherche. Et voilà. Et l'état actuel de ma carrière, c'est des recherches scientifiques et des questionnements et un apport de réponse auprès des gens de terrain. Donc ça permet d'être pile au milieu de deux feux croisés. Le feu des gens de terrain qui veulent toujours plus d'infos et mieux d'infos, et le feu des gens académiques purs et durs pour qui aller sur le terrain, c'est un peu dévoyer sa mission première, etc. etc. Donc j'essaye de faire un pont entre de la recherche académique et de l'application sur le terrain.
Et plutôt un beau pont, puisque tes travaux s'appliquent notamment aujourd'hui au travers d'outils extrêmement terrain, très 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 pratiques, très pragmatiques, comme des smartphones.
Alors, il faut qu'on dise nos travaux plutôt que mes travaux, parce que clairement, c'est un travail d'équipe et j'ai la chance d'être un peu le guide dans cette équipe. Oui, alors ça descend jusqu'à des méthodes de terrain et des outils qui sont dans les smartphones parce que, si tu veux, à un moment donné, on a des conditions de laboratoire, on évalue des variables en laboratoire et puis on tire des conclusions de laboratoire. Et à un moment donné, il y a toujours le problème, et c'est la première question qui vient, c'est comment moi, entraîneur, comment moi, kiné, je peux appliquer vos méthodes ou bien faire vos évaluations. C'est-à-dire, c'est très frustrant. Et je peux le comprendre, on voit des variables très intéressantes, on voit des résultats très intéressants et on a cette limite de l'utilisation pour nous entraîneurs ou pour nous préparateurs physiques. Donc on a collaboré avec des collègues qui ont un peu utilisé nos publications sous notre aide et sous notre contrôle pour générer des applications, les valider. Moi, j'ai aucun conflit d'intérêt économique avec ces outils, et donc j'ai toute confiance pour dire que ils sont valides, et même parfois en recherche on les utilise. Mais du coup, le résultat, c'est que grâce à ça, ce qu'on a fait en labo il y a 10 ans, des clubs de NBA, des clubs de NHL, pour donner les plus grandes ligues mondiales, utilisent nos travaux. Et je pense que sans ce maillage d'outils de terrain, il y aurait eu peut-être 10, 20 ans encore de manque de pont entre la recherche et le terrain.
C'est vrai que personnellement, étant plus un homme de terrain que de science, c'est vrai que j'ai ce sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de trouver le chaînon manquant. J'ai connu cette période où j'étais formé à l'INSEP, où le labo, on avait de la data, on avait de l'info, mais il fallait y aller, il fallait être expert en la matière. Il fallait être très outillé, même tous les labos, aussi pointus soient-ils, n'avaient pas forcément tous les éléments. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les outils dont tu parles, et on va creuser un petit peu pour les gens qui nous écoutent, les outils dont tu parles sont précis.
Alors, c'est avec mon collègue et ami Pierre Samosino, c'est notre obsession. C'est-à-dire essayer d'avoir une balance correcte entre la qualité de l'information, la rigueur et la précision de l'outil, d'une part, donc plutôt un versant recherche scientifique, une validation, et la qualité de l'info et l'accessibilité de l'info en termes pratiques. Et ça paraît bizarre, mais c'est très très compliqué de faire simple. C'est-à-dire que, bien sûr, je peux faire simple, te proposer un outil qui ne marche pas, qui donne des variables qui n'ont pas de sens, ça va prendre 10 minutes et...
Il y en a des outils... Non, ça sort.
Et de l'autre côté, je peux faire compliqué, comme tu l'as dit, on va dans un labo avec de l'analyse du mouvement et on va faire compliqué. Hein. Et on va avoir de la donnée en or massif. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire avec Pierre, c'est essayer d'être le plus proche possible de l'or massif sans tomber dans le truc qui n'a pas de sens. Et c'est très difficile parce que ben, voilà, il faut trouver cette balance-là. Mais je suis content parce qu'on y arrive.
C'est génial parce que c'est vrai qu'une des qualités physiques historiquement les plus mesurables, les plus objectivables, c'est effectivement la vitesse, qui pourtant est tentaculaire, une variété incroyable. Mais effectivement, épreuve reine aux Jeux Olympiques, le 100 mètres, on a un chrono, un point A, point B, point trait. Or, on sait, entraîneur de terrain, que la finesse de la performance là-dedans, et alors encore plus en sport co, avec tout un tas de variables, requiert une analyse fine et une évaluation mécanique qui dépasse...
La vitesse, c'est du déplacement dans le temps. Donc, dès que tu veux évaluer la vitesse d'un geste sportif, il faut que tu aies une référence de temps et que tu captures le déplacement. Et donc, historiquement, avec des travaux notamment français, la première accessibilité, c'était de la photographie, de la chronophotographie. On répétait des images dans le temps. Étienne Jules Marais, à un moment donné, il a des outils qui font 24 images par seconde. Ça rappellera quelque chose par rapport au cinéma, on parlera tout à l'heure. Et donc, les outils actuels, c'est des outils vidéo. Et voilà, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que dans votre poche aujourd'hui, ou au bout d'un chargeur, parce qu'ils sont tout le temps déchargés, vous avez un appareil qui parfois peut monter jusqu'à 240 images par seconde de précision. Et donc ça, pour évaluer la vitesse d'un geste, c'est très précis. Et moi, quand j'ai commencé mes études en master, une caméra de laboratoire qui avait une précision de 240 images par seconde, c'était un outil de laboratoire. Et ce n'était pas il y a 50 ans, hein, c'était en 97-18. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à ces outils-là et grâce à cette technologie-là, on a une analyse du mouvement qui se rapproche un peu des standards. Il y a beaucoup de publications scientifiques en analyse du mouvement qui ont des précisions de 100-120 images par seconde. C'est la moitié d'un iPhone de milieu de gamme aujourd'hui. Et ça, il faut s'en rendre compte parce que c'est... Voilà, il faut vivre avec ça et donc on profite de ça pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ce niveau de technologie.
Alors sur le terrain, concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on utilise comme équipement, comme software? Qu'est-ce que tu nous recommandes et quelles sont les préconisations pratiques pour évaluer le sprint?
Alors pour le sprint, donc pour ce qu'on va appeler le sprint linéaire, c'est-à-dire un athlète qui part d'un point A qui va à un point B, aujourd'hui, les deux outils principaux, les trois outils principaux, c'est soit des unités GPS, donc qui sont fixées sur le joueur et puis qui enregistrent son déplacement au fil du temps. Sur des vitesses maximales de course, actuellement, la précision commence à être acceptable. Soit des outils qui ne sont pas portés par l'athlète, mais qui mesurent sa vitesse, comme les radars. Ça vaut encore relativement cher. Soit cette application qui s'appelle MySprint, donc à laquelle on a contribué au développement, pour laquelle on n'est absolument pas tributaire des ventes, etc., mais qui permet en filmant un sprint...
Mais qui embarque votre technologie.
Qui applique nos équations. Donc, si vous voulez, l'idée, c'était que la méthode qui est embarquée dans MySprint, les calculs qui sont embarqués dans MySprint pour calculer ta force et ta vitesse, ont été publiés par Pierre Samosino dans une étude de 2016. On l'avait publié avant dans un congrès en 2013. Et à partir de 2016, quand on publie quelque chose, nous, on le donne. C'est-à-dire que publier, c'est rendre public. Et donc, n'importe quel développeur, n'importe quelle start-up aurait pu prendre ces équations et puis monter un appareil. Et il se trouve que c'est un ami et un collègue à nous qui l'a fait, qui s'appelle Pedro Jiménez en Espagne, et qui a monté cette application MySprint.
Ce qui est important de préciser, hein, c'est qu'à l'échelle de la recherche et des sciences du sport, 2016, c'est hier. Hein, c'est hier matin, quoi. C'est, ouais. c'est le temps que l'information se diffuse, qu'elle se vulgarise, qu'elle soit validée, qu'elle soit... c'est vrai que là, on est sur des choses extrêmement, extrêmement récentes.
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai, tu as tout à fait raison. On parlera tout à l'heure du décalage qu'il y a entre la production de l'information scientifique et son utilisation sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour nous, c'est notre vie. C'est-à-dire que c'est, on en parle presque tous les jours et puis c'est notre quotidien, c'est notre passion. Et donc, j'ai l'impression que ça fait des siècles que ces équations-là et cette méthode-là est dehors. Mais en fait, non, tu as tout à fait raison avec ça. Y a de l'inertie dans tout ça.
Donc, on utilise sur le terrain concrètement cette application, MySprint. Qu'est-ce que ça va apporter à l'entraîneur aujourd'hui, cet outil-là ? C'est bien plus qu'un chrono évolué, c'est un outil d'analyse du mouvement.
Ouais. Alors, ça va apporter ce qu'il va savoir exploiter. La première chose que ça va apporter, c'est que ça va rationaliser les mesures qu'il fait de ses athlètes. Encore une fois, c'est sur du sprint linéaire. Si tu as des basketteurs et que tu veux savoir à quelle vitesse ils coupent derrière leurs défenseurs, ce n'est pas avec cette application-là que tu vas faire, mais c'est avec des outils qui sont démesurément chers. Donc si tu veux savoir la vitesse de déplacement de tes athlètes, et je pense que globalement, si ton basketteur il est bon sur un 20 mètres départ arrêté ou sur un 20 mètres lancé, il ne va pas être dégueulasse sur un coupé derrière son défenseur. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une sorte de transfert. Et donc, ce que ça va apporter, c'est que ça va quantifier vraiment la qualité de vitesse maximale de l'athlète, mais ça va aussi quantifier la qualité de vitesse à tous les points du sprint. C'est-à-dire, c'est ce que nous, on appelle le profil ou le spectre force-vitesse, c'est-à-dire quelle vitesse tu crées en tout début de mouvement, quelle vitesse tu crées au bout de 5 mètres, quelle vitesse tu crées au bout de 10 mètres, et en gros, quelle vitesse tu as créée du début à la fin du mouvement. Parce que si toi et moi, on se met sur une ligne de départ, et que, je ne sais pas, à la ligne d'arrivée des 20 mètres ou des 30 mètres, on est ensemble, ça ne veut pas dire qu'on a été ensemble, le cerveau simplifie les choses. Ça ne veut pas dire qu'on a été ensemble tout du long et qu'on a le même profil. Parce que peut-être que moi j'ai été en avance sur 5 mètres et puis toi tu es revenu sur la fin, etc. Et ça traduit des qualités musculaires complètement différentes.
C'est vrai que c'est important cette segmentation, cette segmentation des moments, des instants de la course et in fine des qualités techniques et physiques. Ouais. C'est une des vraies clés des progrès, parce que si on entraîne tout le monde pareil, on va arriver peut-être à des résultats plus ou moins efficaces.
Si tu veux, alors là, j'ai le rôle facile. Je ne suis pas un entraîneur, je ne suis pas un préparateur physique. Je l'ai été de façon amateur et puis je m'entraîne, comme tu l'as dit. Mais j'ai le rôle facile, c'est de dire, je ne conçois pas qu'une équipe de sport co, qu'un groupe d'athlètes soit exactement tous entraînés avec le même contenu de séance. Parce que ça veut dire qu'ils ont exactement les mêmes qualités de base, qu'ils ont exactement les mêmes besoins et qu'ils ont exactement les mêmes types de progression.
Et le même comportement.
Les mêmes qualités physiques. Or, on sait que ce n'est évidemment pas le cas. Donc là, ces méthodes-là, elles permettent d'aller un peu plus loin. Tu vois, on a des approches avec des équipes de sport co. À la fin de la journée, on a une évaluation. On a les 5 grands critères du spectre force-vitesse et on a quel joueur est au-dessus ou en dessous de la moyenne ou de la médiane de son groupe sur telle ou telle qualité. Et bien en fait, il y a du rouge et du vert partout sur l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont très bons sur une qualité, pas sur d'autres, mais encore très bons sur une autre. Il y a presque autant d'histoires que de joueurs. Tu prends un groupe de rugby de top 14, sur les 5 variables essentielles du profil, c'est-à-dire force maximale, vitesse maximale, orientation de la force et la perte de cette orientation de la force vers l'avant, ben, tu vas avoir sur 30 joueurs peut-être 3 ou 4 profils exactement identiques. Tu vois ? Et donc ça veut dire que ben, sur ces 30 joueurs, tu peux imaginer qu'il y a au moins 5 ou 6 grands groupes que tu peux former pour aller plus loin dans l'entraînement. Je ne dis pas que c'est utopiste de dire on va faire de l'individuel strict. C'est pas réaliste de dire à un préparateur physique qui a 20 joueurs sous sa responsabilité, tu vas individualiser tout le monde. Ça ne marche pas. Par contre, on peut dire tu vas commencer à faire des groupes ou des familles. Tu vas commencer à sectoriser un peu ton approche.
Et là, on fait de l'individualisation d'un collectif.
Tu fais, alors c'était là je crédite les gens de la Fédération de rugby à l'époque, ils avaient fait un petit reportage sur le suivi du set pour les JO qu'on avait fait. Ils avaient appelé ça l'individualisation collective. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une base collective où tu peux te permettre de faire les choses identiques. Et puis après, si tu veux aller un peu plus loin, parce que le niveau l'exige, il va falloir rentrer dans les détails. Je prends souvent l'exemple d'un groupe de collégiens. Si tu me donnes une classe de 4e et qu'il n'y a aucun athlète de haut niveau dans la classe, en gros, quoi que je fasse, ils font tous pareil, ils vont tous s'améliorer. À la fin de mon cycle, ils courent plus vite, quoi que je fasse. même si je les emmène courir deux fois par semaine, 10 bornes.
Bien sûr.
Après, l'idée, c'est que si tu es à un niveau de compétence un peu plus élevé, ça, ça ne marche plus. Mettre la base à tout le monde, ça va les remettre à jour en début de saison, mais après, derrière, où est la progression? Donc, voilà, on essaie de rentrer dans l'individualisation.
Bien sûr, ouais, c'est ce que Pradet appelait l'interdépendance des facteurs, négative, positive ou neutre.
Chez qui, etc. etc.
Et alors, je trouve ça passionnant, ces interactions entre la force et la vitesse, parce que évidemment, si le sprint, c'était que de la vitesse, ça se saurait.
Ouais.
Et du coup, on a vraiment une interaction très très forte entre les deux. J'imagine que tu as testé beaucoup de gens sur cette méthode-là. Tu arrives à évaluer à peu près le nombre de joueurs que tu as évalué.
Ce que nous, on a fait directement avec nos petites mains, je sais pas, 3000, 4000 profils.
C'est juste énorme.
On additionne tout.
C'est juste hallucinant.
Ce qui est passionnant, c'est que ce que nous, on a permis de faire à d'autres petites mains, là, c'est du lourd. Je ne veux pas me gonfler les chevilles, mais voilà, quand un club de NBA t'appelle en disant « Bon, voilà, ça fait une saison qu'on profile tout le monde sur ça, ça et ça. J'aimerais bien discuter avec vous de mes données parce que là, j'ai besoin. »
Jackpot.
C'est cool. Donc, tu dis « Voilà, on diffuse ça. » Par contre, je vais résumer un truc, c'est important. Dans notre discours actuel, on n'oppose plus force et vitesse. Pour nous, c'est force et force. C'est toujours de la force. C'est-à-dire, ce qui crée le mouvement, c'est de la production de force. Donc, le concept de vitesse, c'est un résultat d'une application de force. C'est-à-dire, si tu bouges vite, c'est parce que tu as appliqué de la force. Et donc, il faut être tout le temps fort, si tu veux être un bon sprinter, mais il faut être tout le temps fort à des niveaux de vitesse différents. C'est ça, la clé. Et si tu t'entraînes toujours avec des charges très lourdes, tu vas être très fort à des vitesses lentes. Ça ne veut pas du tout dire que tu vas être aussi très fort à des vitesses rapides. Donc, tu prends l'exemple typique d'un lanceur de poids ou de quelqu'un qui est extrêmement fort, virgule, à vitesse basse. Bah lui, au bout de 10-15 mètres, il aura du mal à être fort à vitesse élevée. C'est plus sa zone de compétence. Et donc, il ne va pas courir très vite, in fine. Par contre, sur les 10 premiers mètres, il va être très bon. Donc voilà, le résumé, c'est tout simple. C'est pour être bon en sprint, il faut être fort et fort. Fort à vitesse basse, fort à vitesse intermédiaire, fort à vitesse élevée.
Génial. Alors du coup, on arrive à une partie qui m'est chère. Dans toutes mes productions finalement, donc le podcast n'y échappe pas, c'est la recette. Alors, on a bien compris, je pense que tu as été très très clair là-dessus, qu'on ne peut pas avoir une recette magique pour entraîner un sprinter, hein, c'est le message à retenir. En revanche, on voit qu'il y a des gens qui ont des déficits plus ou moins marqués en force. Qu'est-ce que tu préconiserais pour quelqu'un qui est en grand déficit de force? Et quelqu'un qui l'est beaucoup moins. Comme ça, on aurait deux recettes un peu type sur ces...
Spécifiques au sprint.
Spécifiques au sprint.
Donc là, l'idée, à l'heure actuelle, moi, j'ai mon opinion et j'ai les résultats de nos recherches. Donc, je différencie bien les deux. Donc, à l'heure actuelle, ce qui fait du sens pour développer le côté force du spectre, c'est les résultats de nos recherches et notre opinion, c'est soit de la force absolue, c'est-à-dire... Tu as vraiment besoin de plus de force dans tes membres inférieurs.
Et là, il faut vraiment.
Et là, à un moment donné, il va falloir aller à la muscu. Je ne veux absolument pas être taxé d'un anti-muscu. Je suis tout à fait pro-muscu, pro-charge lourde, virgule, si il y a besoin. C'est ça, en fait, le truc. C'est
pas à tout prix.
On résume tout avec ça dépend. Mais oui, ça dépend.
Ouais, ça dépend.
Moi, si tu es super costaud et que tu as des chiffres à la presse énormes et des chiffres au demi-squat énormes, si je veux améliorer ton côté force en sprint, parce que je le trouve déficient, on ne va pas aller souvent à la salle de muscu. Voilà. Donc, soit c'est de la force absolue, soit tu as des joueurs très paradoxaux, par exemple en rugby, je ne vais pas donner de nom, mais tu as des joueurs au niveau international qui ont des chiffres énormes à la muscu, mais qui, quand tu les fais sprinter, ont une force horizontale, c'est-à-dire une force vers l'avant, qui est déficitaire par rapport à leurs collègues.
Et
donc là, le prépa physique, il se gratte la tête, mais nous, on ne se gratte pas la tête parce qu'on voit dans nos chiffres que ces joueurs-là, ils ont une orientation de la force au sol très faible. Donc, pour résumer, ils sont très très forts, mais... avec une orientation de cette force qui est très mauvaise techniquement. C'est ça qu'on a mesuré chez Christophe Lemaître à l'époque. C'est que, à l'époque, il ne faisait pas de muscu. Donc voilà, il n'était pas fort. Mais il courait extrêmement vite parce que l'orientation de sa force au sol était très bonne. Donc, soit on bosse en muscu, soit on bosse en spécifique force, transfert de force et poussé vers l'avant. Et là, on a montré, à l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule étude. Donc on va se détendre, hein, c'est pas... Mais utiliser des chariots lourds dans des bonnes conditions, avec de la familiarisation et tout ce qu'il faut, ça marche. Voilà mes deux, pour l'instant, recettes, entre guillemets. J'ai envie de dire que Si tu as une bonne cohérence entre ton niveau de force absolue et ton niveau de force spécifique sprint, tu as les deux façons de travailler déjà correctes. Après, bien sûr, je passe pas le détail sur la programmation, combien de
Non,
cycles,
bien
combien de
sûr.
macros, mais globalement, faut taper là. Il y a un principe de base, c'est la spécificité. Si on n'accepte pas le principe de spécificité, on ne fait pas d'entraînement. Donc, tu veux bosser le côté force de ton profil, première chose à faire, mets lourd. Si tu as besoin de force, entre guillemets, c'est mauvaise nouvelle. Enfin, mauvaise nouvelle. Ça, c'est mon point de vue de non costaud. Mais il va falloir faire du lourd, quoi. Il va falloir faire de la force.
Et en même
Ça
temps,
ne va pas
bonne
venir
nouvelle
comme ça.
parce que
Et
on
bonne nouvelle
progresse
parce
très
que,
vite
exactement,
et
tu risques d'avoir
et
des.
c'est peu limité.
Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que quand tu fais de la muscu non spécifique, tu cours plus vite. Parce que très, 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 très souvent, elles sont faites chez des gens qui ont une capacité de force qui est faible. Donc, bien sûr, on va dire, ah, la muscu, ça marche. Regardez cette étude, elle dit, ça a marché.
Et
Ah,
c'était des
sauf que
gens qui
si
étaient
tu
en
prends le 15 de
déficit.
France, ben, ils vont pas courir plus vite parce que tu fais plus de muscu. Parce qu'ils
Qui
sont.
sont déjà
Ils
très
sont.
forts.
Exactement. Donc, il faut faire très attention à quelle est la marge de progression. Il ne faut pas conclure le vertical, on va dire, est bon dans l'absolu pour tout le monde, parce que ce n'est pas vrai. Il y a une revue littérature, une seule, en 2014, qui le titre, c'est Améliorer la force en squat résulte à améliorer la perf en sprint. Ah, tu lis le titre sur Twitter, c'est fini, c'est réglé, tu retournes à la salle de muscu. Sauf que quand tu regardes les études qui montrent ça, tu t'aperçois que toutes celles qui montrent ça sont faites avec un très bas niveau de performance, des lycéens, des étudiants en sciences du sport, machin. Et puis plus le niveau des sujets dans les études augmente en termes de perf athlétique, plus ce
Moins
lien
c'est,
il
moins le
disparaît.
lien est précis.
Et ça, faut le dire aux gens. Enfin, c'est écrit dans l'article, hein. On y reviendra tout à l'heure, mais si tu lis que le titre, mal barré. Donc voilà pour la force, en gros.
Merci JB pour cette précision. Vous pouvez suivre ses travaux et ses communications, hein, sur son Twitter.
JB underscore Morin.
JB underscore Morin. Il a aussi un site web.
Ouais, jbmorin.net. Ah, j'ai
JBmorin.net. Voilà.
fait
C'est
super
très
ça.
simple, donc on le trouve assez facilement. Vous le croisez aussi souvent sur mes réseaux sociaux parce que je partage beaucoup de choses de ce qu'il produit. Toujours très intéressant. En tout cas, mille merci d'être venu et à très bientôt pour
Mon plaisir.
un autre épisode.